Bien, bonjour, il est 17 h, c'est l'heure de la troisième table ronde de notre conférence à l'École des Ponts. Et nous avons la chance d'accueillir trois experts de la régulation, puisque nous accueillons Madame Julie Ancidaille, qui est responsable stratégie et finances durables à l'AMF, Monsieur Laurent Clerc, qui est directeur d'études et d'analyse des risques à la CPR, et Michel Cardona, qui est expert associé à I4C. Alors pourquoi ce sujet? Parce qu'évidemment, sur les questions de transition énergétique, la position ou la manière dont les régulateurs vont décider de favoriser ou pas certains investissements est évidemment une question majeure, et c'est la question que nous allons traiter durant cette table ronde. Quel est le rôle de la régulation en ce qui concerne la transition énergétique? La régulation doit-elle créer les conditions pour que la transition énergétique s'opère, oui ou non, et dans quelles conditions? Donc merci encore à nos trois experts d'intervenir aujourd'hui. C'est une grande chance pour nous parce que nous avons des experts du secteur bancaire, des experts des marchés financiers, et donc nous couvrons un panorama extrêmement large, et un grand nombre de compétences ont été réunies à l'occasion de cette table ronde. Donc merci à eux d'être là, et à tout à l'heure pour les questions.
Je suis très heureux d'être ici parmi vous. Donc on va d'abord avoir une présentation par Laurent Clerc, puis Julie Ancidaille, de ce que font respectivement la CPR et l'AMF en matière de changement climatique. Et puis ensuite, je poserai une question, je me ferai un peu l'avocat du diable pour les interroger sur ce qu'ils font. Et donc je laisse d'abord la parole à Laurent.
Alors merci Michel. Donc moi je travaille à l'ACPR. L'ACPR, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. C'est l'autorité qui contrôle les banques et les assurances françaises. Les travaux de l'ACPR sur le risque climatique ont débuté en 2015, après la mise en œuvre de la loi sur la transition énergétique et la croissance verte. Et depuis cette période, on a développé nos travaux sur le risque climatique autour de trois axes principaux. Le premier, c'est la gouvernance des risques au sein des institutions financières. Le deuxième, c'est la mesure, l'identification, le suivi des risques financiers associés au risque climatique. Et le troisième axe, c'est la sensibilisation des acteurs. Je vais juste préciser ce qui est couvert par ces trois axes. Alors, premier axe, la gouvernance. Donc, ici, il y a quatre points qui intéressent en particulier la CPR. Tout d'abord, c'est la stratégie des établissements autour du changement climatique. Donc, par stratégie, on entend l'intégration du risque climatique dans la stratégie des établissements, des stratégies qui sont généralement à moyen terme. Donc par là, ce qu'on vise, c'est notamment la précision sur les objectifs qui sont retenus par les établissements, par exemple des stratégies de sortie de certains secteurs, comme le financement du charbon, comment dire, l'alignement des portefeuilles sur des objectifs comme ceux de l'accord de Paris. Et donc ce qui nous intéresse là, c'est à la fois la précision de ces objectifs, mais aussi les indicateurs qui sont définis, qui doivent être pour nous robustes, vérifiables, et qui permettent justement de mesurer le degré d'accomplissement ou d'atteinte des objectifs qui sont fixés dans le cadre stratégique. Dans la gouvernance, il y a un deuxième aspect qui est important, c'est l'organisation interne des établissements. Donc, ce qu'on va regarder, c'est l'allocation du risque climatique dans la prise en compte du risque financier, et quelles sont les responsabilités qui sont octroyées aux différents membres, par exemple des conseils d'administration. Ce qui va nous intéresser aussi particulièrement, c'est la nature transversale de l'analyse du risque climatique, puisque ça comprend à la fois les directions RSE, les directions des risques et les directions juridiques. Ce qu'on va regarder également, c'est la montée en compétence des collaborateurs au sein des institutions financières, et notamment, par exemple, la formation sur les risques climatiques. Donc après la question de la gouvernance, donc stratégie organisation interne, il y a aussi la question de la mesure des risques. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est en gros la façon dont les risques climatiques sont intégrés dans la prise en compte des risques financiers. Et en particulier, les établissements bancaires, notamment, définissent un cadre d'appétence au risque. En gros, c'est leur profil de risque, ce qu'ils acceptent de prendre comme risque. Et donc, on va regarder le rôle que peut jouer le risque climatique dans cette organisation. Ce qu'on essaye de développer, c'est des analyses qui sont à la fois qualitatives, mais aussi quantitatives de ces risques, en particulier le recours à des scénarios. Et le dernier élément de la gouvernance, c'est tout ce qui porte sur la publication externe, que ce soit dans le cadre d'initiatives volontaires ou dans le cadre de reporting ou d'obligations réglementaires. Donc ça, c'est la partie gouvernance. Le deuxième axe, c'est les risques. Donc on est des institutions qui sont focalisées sur les risques. Alors le mandat de la CPR, par exemple, il est double, hein, c'est la protection de la clientèle et la stabilité financière. Donc dans ce cadre-là, la dimension risque est importante. Alors on a différentes modalités pour mesurer ces risques. C'est généralement des mesures d'exposition des institutions financières par rapport aux risques climatiques. Donc on va mesurer ça par des enquêtes ad hoc. On peut le faire dans le cadre de rapports. Donc, par exemple, avec l'AMF, on réalise depuis l'année dernière un rapport commun qui suit les engagements publics des institutions financières. Et donc on cherche à les évaluer. Ça peut se faire aussi dans le cadre de missions d'inspection. Et puis ça peut se faire aussi dans le cadre d'exercices de risque, ce qu'on appelle des stress tests. Alors la dernière dimension qui nous intéresse, le dernier axe de développement, c'est précisément la sensibilisation des établissements aux risques climatiques. Donc on peut le faire de différentes façons. À la CPR, on l'a conduit par exemple l'année dernière et les résultats ont été publiés en mai cette année. Le premier exercice de stress test climatique qui permet de sensibiliser les établissements à ces risques. Donc, par ces stress tests, on essaye de préciser les canaux de transmission, on essaye de forcer les établissements à réfléchir aux modèles internes qu'ils utilisent pour calculer leurs expositions à ces risques. Et puis on les amène à réfléchir aussi à l'articulation de leur stratégie au cours du temps, en prenant en compte des hypothèses qui leur permettent, par exemple, de changer la structure de leur bilan prendre en compte les risques climatiques. Donc voilà en gros les travaux qui sont conduits par l'autorité sur les risques climatiques.
Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici et je crois effectivement, on l'a dit tout à l'heure, mais le rôle des ingénieurs va appeler à croître pour toutes ces problématiques et comment on peut mieux les intégrer dans la finance. Donc merci pour cette invitation. Donc effectivement, la CPR et l'AMF on partage des responsabilités sur le secteur financier. On en partage des missions communes, notamment en termes de stabilité financière, effectivement, et de protection des clients. Mais on a un champ de compétences un peu différent, et notamment l'AMF a une partie de responsabilité sur le secteur financier, donc en particulier tout le volet gestion d'actifs, gérant tous les acteurs financiers qui gèrent des actifs pour compte de tiers. Et puis, on a aussi une mission, bien sûr, sur les entreprises cotées et l'information qu'elles fournissent au marché, et plus généralement tous les émetteurs de titres. Donc on a à peu près 500 entreprises cotées et la population des sociétés de gestion, c'est environ presque 700 entreprises. Donc ça va de des mastodontes comme AXA, Amundi, jusqu'à des petites sociétés de gestion entrepreneuriales avec donc des modèles très diversifiés et qui conçoivent aussi leur rôle dans la transition énergétique de façon différente. Et puis on a effectivement toute une responsabilité sur les produits d'investissement qu'on agrée et qui sont ensuite commercialisés, comme les OPCVM par exemple, commercialisés auprès des investisseurs. Alors nos missions aussi, au cœur des missions de l'AMF, c'est effectivement la protection des investisseurs, on en a parlé, mais aussi la bonne information du marché et son bon fonctionnement en général. Et ces enjeux de transparence, c'est vraiment le principal outil, et Michel y reviendra, dont on dispose aujourd'hui pour accompagner cette transition énergétique. On verra ces préoccupations de durabilité, ces préoccupations environnementales. Et c'est comme ça qu'on les intègre à ce stade. Comme la, enfin, ça fait plus d'une dizaine d'années que l'AMF regarde les enjeux de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, par exemple, s'est intéressée à la croissance de l'investissement responsable, parce que la France a une longue tradition de l'investissement responsable. Mais c'est vrai qu'il y a un basculement très net depuis deux ans, et je trouve que ça vient vraiment choquer dans une certaine mesure, non seulement la façon dont on conçoit nos missions, mais aussi les compétences dont on va avoir besoin, et puis le cadre réglementaire qui bouge extrêmement vite. Donc moi, mon sentiment aujourd'hui, c'est que la terre tremble un petit peu depuis deux ans. Il y a des secousses qui se rapprochent un petit peu. Je ne sais pas exactement encore à quel point, jusqu'à quel niveau de l'échelle on va aller sur ces prises en compte par la réglementation financière des enjeux environnementaux et sociaux, mais on voit que les choses avancent, et non seulement d'un point de vue réglementaire, mais aussi d'un point de vue du marché. Donc pour expliquer comment l'AMF maintenant appréhende ces enjeux environnementaux et de transition, je vais dire un mot sur le cadre réglementaire, parce qu'encore une fois, c'est lui qui décide un petit peu nos moyens d'intervention et puis les règles auxquelles doivent répondre les entités qu'on régule, donc que ce soit les entreprises, encore une fois, ou les intermédiaires financiers. Et puis ensuite, le marché, comme on l'a vu, bouger depuis deux ans, et qui aussi, encore une fois, est venu choquer, je trouve, la façon dont on voit notre marché, et qui fait évoluer, je pense, les attentes vis-à-vis du régulateur. Donc, du point de vue réglementaire, très nettement, la France avait des... Laurent a parlé de 2015, qui a été vraiment une date pivot avec la COP 21, bien sûr, mais aussi, effectivement, des premières bribes de cadre réglementaire en France, qui a largement ensuite inspiré le cadre européen, sur ces deux dernières années, a pris vraiment une dimension extrêmement... structurante pour le marché en Europe, et on voit aussi que les discussions et les nouveaux règlements qui ont été adoptés au niveau européen aussi maintenant vraiment ont un écho au niveau international, donc ça c'est intéressant. Donc un mot sur le plan d'action de la Commission européenne pour la finance durable qui a été donc publié en 2018 et qui pour l'échelle européenne de temps habituel est allé très vite, puisqu'il y a déjà trois règlements qui ont été adoptés, multitude d'actes délégués, des guidelines, etc. Et avec il y a plusieurs choses. Il y a le fait que la prise en compte des risques, et Laurent en a parlé, la prise en compte des risques climatiques et plus généralement environnementaux et sociaux doit faire partie de la gestion des risques des intermédiaires financiers. Mais fondamentalement, ce plan d'action, il est fondé sur une transparence accrue vis-à-vis de ces enjeux. Et du point de vue de l'AMF, donc peut-être plus que pour les autorités prudentielles, ça vient modifier quasiment la totalité des textes qui régissent, encore une fois, les acteurs que l'on régule et qui définissent un peu nos moyens d'intervention. Et avec, encore une fois, l'idée de mettre de la transparence sur ces enjeux environnementaux, sur l'ensemble de la chaîne d'investissement et du secteur financier, avec deux leviers. Un levier principal autour, effectivement, de cette idée de taxonomie, donc de classification des activités qu'on pourrait juger verte, et on en a parlé à l'instant, avec l'idée de donner des points de repère sur ce qui est jugé durable d'un point de vue environnemental à partir de critères techniques, et puis de pouvoir utiliser ces activités pour ensuite remonter la chaîne d'investissement et offrir cette transparence. Donc l'activité, c'est un petit bout d'une entreprise, au niveau de l'entreprise ensuite, et puis ensuite jusqu'au produit d'investissement offert aux clients. Donc ça, c'est une vision relativement optimiste de comment on pourrait utiliser cet outil, mais c'est ce qui est en train de se passer avec donc un dictionnaire d'activités qui est mis à disposition à la fois des entreprises et aussi du secteur financier. Donc ça, c'est sur la contribution positive des investissements, des financements. Et puis il y a un autre volet qui va moins loin à ce stade, mais qui commence à aborder l'idée d'une contribution négative des investissements, avec l'idée de regarder ce qu'on appelle les principal adverse impacts, donc dans quelle mesure est-ce que des investissements ont un impact négatif sur des objectifs environnementaux. Donc la transparence qu'on essaye de donner à différents niveaux, que ce soit les activités, les produits d'investissement ou les acteurs financiers, va essayer de jouer sur à la fois la contribution positive ou la contribution négative. Donc du point de vue du régulateur financier, mais en général des économistes, des financiers, on avait traditionnellement le risque, le rendement, et là on essaye d'introduire une nouvelle dimension qui est plus autour de l'impact, donc l'impact sur des valeurs extra-financières, enfin des objectifs extra-financiers. Et je trouve que c'est là où nos mécanismes de réflexion, nos outils sont en train de prendre cette nouvelle dimension en compte, mais on n'est encore pas complètement robuste sur ces aspects. Il y a tout un nouveau dialogue et une nouvelle grammaire à construire autour de ces enjeux. Donc le plan d'action, il est effectivement fondé sur la transparence, mais il n'oblige pas et il incite pas vraiment non plus, si ce n'est via ce canal qui est de dire montrez-nous ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas en faveur ou contre donc des objectifs environnementaux. Ça, c'est un petit bout des changements qui sont en train de se passer. Et c'est vrai que ça interpelle aussi les entreprises qui vont dire alors comment est-ce que moi je fais pour évaluer mes activités et dans quelle mesure est-ce que ça commence à impacter mes plans d'investissement aussi, puisqu'il y a mon chiffre d'affaires aujourd'hui, mais demain, les entreprises vont devoir donner de l'information sur leur chiffre d'affaires, leurs dépenses de recherche, leurs dépenses en général et leur alignement avec ces activités jugées durables d'un point de vue environnemental. Donc ça, c'est le push réglementaire qui est extrêmement important, qui s'accompagne aussi de transparence donc sur les produits financiers et sur les acteurs. Et c'est en train de se mettre en place avec pas mal de difficultés parce que c'est vraiment nouveau. Et puis un deuxième push qui explique comment l'AMF aussi a été amenée à renforcer son implication hein, sur tous ces enjeux environnementaux, outre l'urgence qui est bien sûr connu aujourd'hui. C'est un basculement du marché, et notamment du secteur financier, avec effectivement le développement d'offres de produits d'investissement présentés comme verts ou durables et offerts. Traditionnellement, ils étaient plutôt offerts à des investisseurs institutionnels, dont des caisses de retraite, des gros assureurs, mais aujourd'hui avec l'idée d'amener ces produits d'investissement qui intègrent donc une considération au-delà du financier, une considération environnementale ou sociale par exemple, vers une clientèle de détail. Donc pour l'AMF, une préoccupation qu'on a eue, donc encore une fois j'ai dit dans nos missions, il y a cette idée de bonne information, de protection des clients, et on a un principe fondamental qui est une information claire, non trompeuse, qui doit être offerte aux clients. Et avec cette espèce de basculement de l'industrie, d'un push assez fort pour offrir ces produits, il y a une préoccupation assez forte et assez rapide de risque de greenwashing. Donc c'est un des axes qui nous a mobilisés depuis 2 ans, avec en même temps dans un marché qui se structurait, qui se développait, et ce qui est tout à fait indispensable, encore une fois, parce qu'on a besoin de l'épargne, et je crois que la session avant l'a abondamment dit, on a besoin de mobiliser l'épargne pour des produits plus verts et plus durables, mais il y a encore un besoin de clarifier ces différents produits. Et donc un des outils qu'on a utilisé à l'Autorité des marchés financiers, c'est effectivement de définir des standards minimums sur ce qui pouvait être proposé comme produits verts et durables aux épargnants. Donc on a parce qu'on était aussi en avance de phase par rapport au cadre réglementaire qui n'est pas encore en vigueur, qui entre tout juste en vigueur. Donc ça, c'est un sujet du point de vue du régulateur de marché, la protection des investisseurs et la transparence vis-à-vis de ces produits d'investissement, parce qu'à un moment ou à un autre, entre l'activité qui est jugée durable et le produit qui est proposé au client, il faut qu'on puisse avoir une certaine cohérence d'ensemble. Alors ceci dit, je voudrais... Donc il y a cette préoccupation de greenwashing qui est reconnue maintenant encore une fois aussi par l'industrie, je pense, et plus largement, qui doit s'accompagner d'autres efforts, des efforts de pédagogie vis-à-vis des épargnants, des efforts de formation des conseillers, sur les règles qui s'appliquent. Mais ce push commercial, je pense, va quand même au-delà, pour être un peu plus positif, va être au-delà de ces préoccupations de greenwashing. C'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, les chiffres explosent, on voit les signataires des principes d'investissement durable, responsable, on voit l'explosion des volumes d'investissement responsable, mais on voit aussi quand même que cette pression du secteur financier sur les modèles économiques des entreprises commence à avoir un impact. Et donc, c'est vrai aussi que, du point de vue de l'AMF, ça veut dire qu'il faut qu'on regarde, encore une fois, l'intégralité de l'écosystème qu'on regarde et dans quelle mesure est-ce que ce dialogue qui s'instaure entre les investisseurs et les entreprises sur ces enjeux environnementaux et sociaux, dans quelle mesure est-ce que ça contribue à changer les modèles économiques au profit d'une transformation plus durable. Donc voilà, Laurent a présenté plus les volets risques. Moi, c'est plus le volet, effectivement, réallocation au profit d'activités vertes. Ça, c'est des sujets qu'on regarde aussi. Et avec un volet innovation qui est aussi important, parce que je crois que la mobilisation du secteur financier, au-delà des règles qu'on peut imposer, de la transparence, c'est vrai que le secteur financier a un rôle à jouer en termes de faire changer les entreprises dans lesquelles ils sont investis, mais aussi d'innovation et de réfléchir à nouveaux produits. Je crois que tout à l'heure, on a parlé de blended finance, de comment est-ce qu'on peut dérisquer certains produits, comment est-ce qu'on peut mobiliser les capitaux. Et donc, là aussi, le régulateur a un rôle à jouer pour l'accompagnement de ces nouveaux produits. Et donc, ça fait partie des sujets qu'on regarde aussi. Voilà pour un aperçu.
Merci. Merci à tous les deux pour cette présentation. Donc, finalement, on voit que dans les pays développés, les régulateurs et les superviseurs se sont tenus pour l'essentiel à leur mission, à une approche traditionnelle au regard de leur mission. Hein, c'est ce que l'on peut comprendre. On voit que du côté des superviseurs bancaires, l'approche a privilégié, que ce soit les superviseurs bancaires ou les superviseurs d'assurance d'ailleurs, l'approche a privilégié les risques, la prise en compte par le secteur financier des risques climatiques et puis la prévention du risque pour l'ensemble du secteur et du risque systémique. Et du côté des autorités de marché, Julie le disait, la préoccupation, ça a été l'amélioration de beaucoup de la transparence, de l'information du marché et aussi, ça a été bien clairement expliqué, aussi la protection des consommateurs par rapport à ces nouveaux produits. Et de fait, le plan d'action de la Commission européenne de 2018 était basé bien sur trois blocs. Il y avait un bloc, effectivement, la taxonomie, le disclosure, et puis un certain nombre d'outils, que ce soit de benchmark, de label, de standard, qui visaient à améliorer la transparence pour les acteurs de marché. Donc, effectivement, depuis 2015, beaucoup de choses ont été faites. Ça, c'est clair, et les présentations ont bien illustré cela, le fait que les superviseurs se sont vraiment emparés du sujet. C'est vraiment même extraordinaire. Je pense qu'en 2015, la question que se posaient un peu les observateurs ou les universitaires, c'était de dire il faut convaincre les superviseurs de s'intéresser à ce sujet. Là, maintenant, la question n'est plus du tout celle-là. La question, c'est clair que les superviseurs se sont emparés à bras-le-corps du sujet. On fait énormément de choses. Et notamment dans ce domaine, je dirais, un peu traditionnel. Bon, je ne vais pas rentrer, moi, dans le débat sur ce travail-là, comment on pourrait le faire mieux, on pourrait aller plus loin, le problème des données, etc. Je voudrais prendre un tout petit peu de recul et poser un autre débat qui, me semble-t-il, est en train d'émerger pour savoir si la réglementation financière, elle ne devrait pas aller au-delà. Avoir un rôle plus proactif, plus volontariste pour lutter contre le changement climatique. Et c'est un peu les mêmes débats qu'on a du côté de la politique monétaire, pour savoir jusqu'où la politique monétaire doit aller. Et donc concrètement, est-ce que la réglementation financière devait être plus volontariste qu'elle ne l'est actuellement pour favoriser le financement de la transition énergétique ? Alors, c'est une question qui est posée par un certain nombre d'ONG, qui est posée par un certain nombre d'universitaires, qui notamment veulent, je dirais, qui voudraient un peu que la réglementation financière, que la réglementation financière pallie un peu les défaillances ou les insuffisances des politiques économiques publiques. Mais ce débat, me semble-t-il, il va au-delà des ONG et des des universitaires. Il y a aussi un débat interne au sein des institutions, des régulateurs ou des superviseurs, au sein du NGFS, où il y a des superviseurs du Nord et du Sud. Les pratiques sont différentes et sur certains sujets, la discussion existe. Et au sein de la Commission européenne, le débat existe, enfin, au sein des instances européennes plus largement. On sait que cette question existe aussi. La Commission européenne, depuis 2018, s'interrogeait sur l'utilisation d'un green supporting factor, hein, c'est-à-dire d'un facteur incitatif pour alléger les charges de capital des banques, pour les inciter à financer le vert. Hier, la Commission européenne a publié sa stratégie de finance durable renouvelée, qui apporte 4 grands domaines, dont un concerne plus particulièrement le secteur financier. Et la Commission dit que le secteur financier a un double rôle en matière de changement climatique ou plus largement d'environnement. Il doit être plus résistant aux risques, il doit renforcer sa résilience, sa résistance aux risques climatiques et environnement d'un côté, et de l'autre, il doit être plus résistant, et de l'autre, il doit augmenter sa contribution à la durabilité. Donc on a bien cette double problématique qui est posée. Et la Commission européenne envisage des actions dans ces deux domaines pour pousser le secteur financier à, d'un côté, améliorer sa résilience, ce qu'elle a déjà fait, et puis aussi à augmenter sa contribution. Et sur ce dernier aspect d'améliorer la contribution, la Commission européenne envisage d'obliger les institutions financières à publier leur plan de transition, décarbonation, avec des objectifs de moyen et long terme. Elle envisage même d'éventuellement d'intervenir pour rendre ces plans plus crédibles, pour les monitorer, pour les suivre. Elle envisage d'intégrer dans la responsabilité fiduciaire des investisseurs, des gestionnaires d'actifs financiers de façon générale, les impacts ESG des investissements. Elle a déjà intégré un peu les risques ESG, a obligé à prendre en compte, Julie faisait référence, à prendre en compte la préférence des consommateurs. Elle envisage maintenant de faire un pas supplémentaire et d'intégrer dans la responsabilité fiduciaire la prise en compte des impacts négatifs des investissements, notamment en matière environnementale. Et puis elle s'interroge également pour faire jouer aux superviseurs un rôle important pour favoriser une intégration cohérente de la double matérialité au sein du système financier. Donc double matérialité, c'est à la fois l'impact de l'environnement sur le secteur financier, ce sont les risques, mais c'est aussi l'impact du secteur financier sur l'environnement, donc vers l'extérieur. Alors, à ce stade, ce sont des grands principes. Et évidemment, il y aura certainement beaucoup de discussions pour transcrire cela en mesures concrètes. Mais on voit qu'il y a déjà une interrogation, il y a déjà un débat. Alors, pour faire réagir Julie et Laurent, comment on pourrait poser les termes de ce débat? À quelles conditions la réglementation financière pourrait finalement aller prendre en compte cette double matérialité et comment elle pourrait avoir un rôle plus proactif, plus volontariste pour orienter les financements en faveur de la transition notamment? Alors, peut-être 4 points. Le premier point, c'est que, et je pense que là-dessus, on sera d'accord, c'est que la responsabilité première pour fixer les orientations politiques et stratégiques en matière de changement climatique ou de lutte contre le changement climatique, cette responsabilité première, elle reste aux mains des gouvernements et des politiques. Et les superviseurs, les régulateurs n'ont pas vraiment vocation à se substituer à eux. Deuxième point, c'est le problème du mandat des superviseurs et des banques centrales. Il est vraisemblable que ce mandat devrait être modifié par les régulateurs, peut-être pour leur permettre d'intervenir au-delà de ce qu'ils font actuellement. Troisième point, et c'est un point important, plus compliqué, me semble-t-il, c'est le problème du conflit des objectifs. Les superviseurs disent à juste titre, notre responsabilité première, c'est d'un côté de protéger le système financier contre les risques, de l'autre, c'est d'assurer une bonne information du marché, une transparence, etc. Et il ne faut pas qu'une démarche plus volontariste nous mette en contradiction par rapport à cet objectif premier. Donc il faut effectivement bien prendre ça en compte. Quatrième point, et j'aurais un tout petit peu plus peut-être m'arrêter là-dessus, c'est le problème de l'impact de la réglementation financière sur le financement de la transition. Je pense qu'il faut essayer de dépasser un peu la discussion sur les principes et être plus pragmatique d'une façon. Et je pense que l'impact que pourrait avoir la réglementation financière devrait être en quelque sorte un peu le juge de paix sur est-ce qu'on l'utilise ou pas. Souvent les régulateurs disent mais quand on suit notre mandat traditionnel, risque, transparence, indirectement on favorise le financement de la transition. Et donc finalement on fait les deux de la même façon. Alors, c'est globalement vrai. Ceci dit, on peut quand même s'interroger sur l'impact vraiment. Est-il aussi important qu'il devrait l'être? Est-ce qu'il est aussi rapide qu'il devrait l'être? Est-ce qu'il n'y a pas des impacts négatifs? Peut-être qu'on aura des questions là-dessus. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc, vraiment, je pense que ce qui est le point central, c'est quel est l'impact que l'on peut attendre de la réglementation financière pour canaliser, plus accélérer le financement de la transition. Et là, je pense qu'il faut vraiment réfléchir sur quelle est l'efficacité de l'amélioration de la transparence, à qui on a donné quand même une grande importance là-dessus. Quelle est son efficacité réelle, quelle est l'efficacité de la réglementation prudentielle pour orienter les financements bancaires, quelle est l'efficacité d'un green supporting factor par rapport à un brown penalizing factor, par rapport à d'autres solutions prudentielles, quel pourrait être l'impact de changer le comportement des acteurs financiers via la responsabilité fiduciaire, via les rémunérations, etc. Et donc, je pense que cette évaluation ex poste, lorsqu'on a un petit peu de recul, comme en matière de transparence, ou ex ante, là où on n'a pas encore beaucoup de profondeur historique, je pense que cette évaluation devrait guider la décision des régulateurs. Et en fait, la question que je me pose, c'est pourquoi se priver d'outils supplémentaires pour lutter contre le changement climatique, pour accélérer le financement de la transition, compte tenu de l'urgence à agir. Et puis peut-être pour terminer provisoirement, je me demande si l'opposition entre l'approche traditionnelle et cette approche plus volontariste, elle n'est pas un petit peu artificielle, finalement, si les deux approches ne se rejoignent pas. Et je me demande si améliorer, faire en sorte que le financement de la transition se passe bien et rapidement, est-ce que ce n'est pas la meilleure façon d'éviter la survenance des risques, notamment des risques de transition et aussi des risques physiques. Voilà, je voulais poser les termes de ce débat. Je vous laisse maintenant, bien sûr, réagir. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas qui est-ce qui veut réagir en premier.
Tu veux que je commence ? Vas-y. Je vais peut-être commencer pour réagir sur quelques points. Peut-être repositionner le travail des autorités de supervision dans un contexte assez général et puis affiné pour revenir sur tes questions un peu plus techniques sur les facteurs supporting green ou penalizing brown en expliquant un petit peu ce que c'est. Donc de façon générale, la réglementation financière et le cadre de supervision sur lequel on s'appuie, c'est un cadre qui est élaboré au niveau international et développé ensuite au niveau européen. International dans le cadre de comités internationaux comme le comité de Bâle pour la réglementation bancaire par exemple ou l'agence internationale qui contrôle les assurances, où il y a aussi l'organisme international de marché. Donc c'est des principes généraux qui sont fondés quelque part sur le principe d'économie de marché. Donc ça, c'est un point qui est important. Deuxième point important, c'est que dans ce contexte d'économie de marché, il y a aussi une concurrence qui est que les financements proviennent pas seulement des banques, mais également d'autres acteurs financiers qui sont contrôlés par Judy, par exemple, ou d'autres acteurs, ou des financements directs de marché. Alors, ce contexte est important parce que, et donc j'en viens au point que tu évoquais entre les approches nord et sud, le premier point, c'est de dire, dans le système dans lequel on opère, en fait, on a une allocation du capital, des crédits, par exemple, qui s'opère sur la base des choix des acteurs financiers. Et comme Julie l'a dit, ça, en général, en finance, c'est autour d'un couple qui est le rendement et le risque. Donc on essaye de trouver un juste équilibre ou de trouver son objectif en termes de rendement et de risque. Alors le problème de ces mécanismes de marché, c'est que l'équilibre auquel on aboutit n'est pas forcément optimal. Donc il y a des choses qu'on peut rater. Donc un des points qui est mis en avant par la nouvelle réglementation et dont vous avez parlé tous les deux, c'est l'impact négatif du financement sur le climat, l'environnement. Ça, c'est ce qu'on appelle des externalités négatives qu'on va essayer de corriger, donc soit par de l'action publique, soit effectivement par de la réglementation. Et donc, dans ce cadre-là, on a effectivement un cadre réglementaire et de supervision en particulier qui s'appuie sur une approche fondée par les risques. Donc, quand on fait le constat qu'on a un déficit de financement, et ça fait le lien aussi avec ce que disait M. Bourcade précédemment, quand on fait le constat qu'on a un déficit de financement, ça peut être lié justement à des dysfonctionnements qu'on peut essayer de corriger. Et il y a plusieurs approches à prendre. Donc soit on peut essayer de regarder la partie des risques et donc introduire par l'action publique ou la réglementation des distorsions qui vont permettre de résoudre les équilibres, soit on peut regarder la question des rendements. Alors, ce qu'on met en avant, c'est que, en fait, c'est sans doute par les rendements qu'il faut regarder les choses, et des instruments qui sont plus puissants pour orienter l'épargne, ça peut être justement des actions de politique publique, comme justement des politiques énergétiques, des politiques de financement ou des politiques de taxation du carbone, ou de taxation des industries qui émettent le plus de gaz à effet de serre, plutôt que d'introduire des distorsions dans le système de gestion des risques. Alors l'idée qui a été produite par certains, c'est de dire finalement on a des risques ou des poids qui sont appliqués aux risques qu'on peut essayer de changer donc de deux façons. Donc soit on va atténuer la pondération des risques vis-à-vis de certains secteurs d'activité pour favoriser l'investissement dans ces secteurs-là, c'est ce qu'on appelle le green supporting factor, soit au contraire, on va les pénaliser pour essayer de dissuader les institutions financières de placer ou de s'exposer à ces risques-là. C'est le brown penalizing factor. Alors nous, on est assez défavorable à ces approches-là parce qu'elles introduisent des distorsions qui ne sont pas forcément maîtrisées dans le domaine des risques, avec des orientations des flux d'investissement qui, justement, ne prennent pas en compte la dimension relative au risque. Ce n'est pas parce qu'on investit dans un secteur divers qu'on a forcément moins de risques. Donc, il y a une question de la mesure. Alors, effectivement, la question est compliquée, puisque la mesure du risque, elle doit s'apprécier à des horizons plus ou moins longs. On l'a vu tout à l'heure sur les investissements à long terme ou sur le risque climatique, où on change complètement d'échelle. On est sur des horizons qui dépassent très largement l'horizon de décision des institutions financières. Donc c'est là où se situe le vrai sujet. Mais nous, on est plutôt sur une approche où on considère que c'est plutôt par les rendements et les incitations dans cette dimension-là qu'on va avoir un impact plus positif. Alors tu évoquais justement des aspects de la réglementation sur la double matérialité. Donc ça, c'est introduit maintenant dans la réglementation européenne et française. La réglementation européenne, il y a un règlement qui s'appelle SFDR, donc c'est Sustainable Finance Disclosure Regulation, donc qui impose des exigences supplémentaires en termes de fourniture d'informations donc qui prennent en compte cette double matérialité, c'est-à-dire des mesures d'impact du climat ou de l'environnement ou d'autres risques sur les institutions, et ce qu'évoquait Julie, des mesures d'impact des externalités négatives, des politiques de financement ou d'assurance, par exemple, sur l'investissement. Et en France, on a, donc depuis deux semaines, je crois, ou trois maintenant, un article 29 qui est associé à la loi énergie-climat, dont le décret d'application a été publié donc il y a quelques semaines, et qui précise un certain nombre de mesures, d'indicateurs que devront fournir les institutions, et qui intègre cette dimension-là. Et un aspect qui est important dans la réglementation, c'est les incitations qu'on donne aux agents. Tu évoquais la question de la rémunération par exemple des gestionnaires d'actifs par rapport à des risques. Effectivement, intégrer des dimensions relatives aux risques environnementaux ou climatique dans la rémunération des acteurs, ça peut être un facteur de changement de comportement, et c'est sans doute un vecteur très puissant d'orientation des flux d'investissement.
Merci Laurent. Julie, je te laisse.
Je vais peut-être revenir sur le rôle de la transparence et effectivement dans quelle mesure est-ce qu'il faut aller au-delà. Et ce qui est quand même aussi nécessaire, ne serait-ce que sur cet outil de la transparence qu'on essaie de mettre en place, mais sur lesquels il reste pas mal de choses à faire. La transparence qui est voulue aujourd'hui, il y a la question de à quoi est-ce qu'elle va servir, comment est-ce qu'elle est utilisée par les acteurs financiers, et dans quelle mesure cette transparence se fonde sur des informations qui sont suffisamment robustes et comparables. Ça, c'est un vrai outil, donc c'est un vrai enjeu. Donc je pense qu'effectivement, pour que ça joue pleinement son rôle, il va y avoir encore une phase à la fois d'intégration de cette nouvelle information qui est disponible, encore une fois, au niveau des activités, des acteurs, des entreprises, et puis de robustesse de l'ensemble de cette chaîne de valeur. Donc je pense que ça, c'est un outil qui on le voit déjà, interroge, voire inquiète les entreprises, par exemple, puisqu'elles vont devoir montrer dans quelle mesure elles sont plus ou moins vertes ou plus ou moins marron si la Commission va dans... Enfin, si de nouvelles règles vont dans cette direction. Mais là, on est effectivement à un moment un peu charnière où l'information n'est pas encore assez robuste. Les entreprises, par exemple, ne savent pas encore classifier leurs activités. Et dans le même temps, il y a des intermédiaires comme des fournisseurs de données, des agences de notation ESG qui vont commencer à mettre à disposition ces données sur le marché. Donc il y a vraiment un rôle quand même assez structurant d'imposer ces obligations de transparence, même si on sait que la qualité n'est pas encore là, parce que ça va d'abord forcer les acteurs financiers à aller chercher ces informations, et puis ça oblige aussi à dire ce qu'on fait ensuite de cette information. Donc il y a vraiment aussi un enjeu pour les régulateurs et pour les acteurs privés d'utiliser cette transparence pour qu'elle puisse jouer un rôle. Maintenant, il y a effectivement une certaine peut-être un rôle un peu trop ambitieux donné à cette transparence dans l'intégralité de la chaîne de valeur, parce que comme le disait Michel, en fait il y a certains autres pans du fonctionnement des marchés financiers qui ne sont pas forcément encore complètement mise à jour pour prendre en considération ces impacts. On a parlé de la double matérialité, par exemple. Effectivement, il y a ces obligations de transparence de dire comment est-ce que vous prenez en compte les impacts négatifs de vos investissements, comment est-ce que vous les quantifiez au niveau de vos portefeuilles d'investissement, par exemple. Mais la responsabilité, effectivement, du secteur financier n'est pas encore complètement clarifiée. Alors, la partie gestion des risques est plus résilience, dont a parlé Michel, effectivement. On voit bien que c'est un enjeu, puisqu'il faut assurer la résilience de l'acteur, la performance financière vis-à-vis de risques environnementaux et du changement climatique. Mais comment est-ce que vous intégrez cette double matérialité dans vos décisions et dans vos stratégies d'investissement? Là, il y a encore aussi un champ, et on voit bien que il y a des réflexions en cours aujourd'hui pour dire dans quelle mesure est-ce que, pas seulement au niveau de la Commission européenne, mais au niveau des gérants eux-mêmes, pour dire dans quelle mesure est-ce qu'effectivement on va, est-ce que c'est un devoir de vigilance du gérant, ou bien au contraire, est-ce qu'on intègre ces dimensions aussi dans ce qu'on propose à l'investisseur pour la gestion de son épargne, et donc en fait, dans quelle mesure est-ce que l'investissement, au-delà de la performance financière, contribue au monde dans lequel va se placer l'investisseur lorsqu'il va prendre sa retraite, par exemple, et dans ces cas-là, c'est une responsabilité fiduciaire qui est élargie. Ça, c'est des débats qui commencent à avoir lieu, qui sont extrêmement vifs au niveau international, parce qu'on a une approche, un certain nombre de gérants, de clients aussi, ont une conception étroite de la responsabilité financière, et c'est vrai qu'on a aussi besoin d'acteurs besoin d'intégrer les considérations de performance financière et voir comment les autres considérations s'intègrent dans la relation, encore une fois, entre le client et son intermédiaire financier. Donc il va y avoir un vrai enjeu aussi de clarifier ces objectifs, pas de régulation peut-être, mais ces objectifs du secteur financier, et comment ça se traduit, avec aussi des préoccupations encore d'horizon. Je pense qu'en 2015, je crois qu'il y a vraiment eu un basculement lorsqu'on a entendu parler de la tragédie des horizons pour la première fois, mais cette question des horizons n'est pas complètement résolue aujourd'hui, et du coup il y a une question de comment est-ce qu'on utilise cette transparence pour faire avancer ces sujets. Après, il y a effectivement d'autres leviers de la réglementation qui vont pouvoir être utiles. Et notamment, on a parlé des préférences des clients. Et là aussi, il va y avoir un enjeu. Je pense que c'est difficile de demander à la réglementation de traiter l'ensemble des sujets, notamment parce qu'on voit que le marché va plus vite que la réglementation. Aujourd'hui, le cadre, par exemple, qui s'applique aux obligations vertes, qui a été proposé par la Commission européenne, n'est pas encore en vigueur. Il manque encore beaucoup d'informations. Mais on voit que le marché des obligations vertes et durables est en train d'augmenter à toute allure, notamment en Europe. Et donc, les entreprises intègrent, au-delà des contraintes réglementaires, intègrent ces enjeux environnementaux et sociaux aujourd'hui dans leur plan de financement et dans leur appel au marché. Donc il y a un enjeu aussi pour la réglementation financière d'accompagner les changements, mais sans venir bloquer ce qui pourrait être fait au niveau du marché et des innovations. Voilà, et donc il y a un dernier point, je pense, où la réglementation financière, je crois que ça fait partie aussi des propositions de la Commission européenne, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, où aussi je pense que le débat doit être plus clair, c'est dans quelle mesure est-ce que le rôle des actionnaires peut être facilité dans leurs relations avec les entreprises, et là aussi il y a peut-être des leviers au niveau de la réglementation financière, mais encore une fois, comme je disais pour le développement des marchés, des obligations vertes par exemple, il y a aussi au niveau des investisseurs des actions qui sont faites par les gérants de façon proactive, qui mettent en place des coalitions d'investisseurs pour essayer de peser sur les entreprises, nous savons les entreprises les plus carbonées et les plus impactants pour le réchauffement climatique ou d'autres enjeux environnementaux. Mais là aussi, je pense qu'il y a cette question des horizons, cette question de ce que veulent les actionnaires vis-à-vis des entreprises. Et je pense que ce débat, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on est à mi-chemin. On voit que les choses sont initiées, que la réglementation financière a contribué à poser des jalons, mais il y a d'autres leviers qui jouent et qui viennent plus du secteur, des acteurs privés, des relations entre les investisseurs, leurs intermédiaires et les entreprises.
Merci à tous les deux pour vos réactions. Je ne sais pas si on a un petit peu de temps pour qu'on continue avant de passer aux questions. Peut-être que je peux réagir sur ce qui a été dit. Moi, je suis assez d'accord avec pas mal de choses qui ont été dites. finalement, Laurent dit que l'allocation des crédits se fait sur un couple rendement risque. C'est vrai que c'est l'approche traditionnelle. Et dans sa présentation, Julie disait qu'il y avait l'introduction d'un nouveau facteur qui était l'impact, etc. Donc c'est un peu tout le débat, c'est-à-dire est-ce que les actionnaires, les acteurs financiers restent sur cette approche très classique du couple rendement-risque, en disant tant que le marché ne sera pas capable d'intégrer tous ces éléments-là, ben on ne fait rien et on attend. Ou est-ce qu'on essaye, est-ce que la réglementation financière essaye d'accélérer la prise en compte de ces externalités, hein. Je crois que c'est vraiment bien le débat et quelle est un peu la vision qu'on a, l'urgence que l'on a et savoir si le marché va pouvoir surmonter ces difficultés-là dans un temps court ou pas. Comment dépasser ces externalités, comment intégrer ces externalités, comment dépasser les faillites ou les défaillances de marché. Laurent disait que soit on peut le faire en jouant sur les risques, ou alors on joue sur les rendements. Et bon, il disait qu'il pensait que c'était plus normal de jouer sur les rendements par des politiques publiques, par une taxe carbone, etc. Certainement que c'est certainement une voie indispensable de passer par la taxe carbone. La question, à mon avis, c'est pas de savoir, une fois encore, c'est pas de se dire que la réglementation peut se substituer à la politique économique. Le problème, la bonne question, à mon avis, c'est de savoir si la réglementation peut contribuer à sa place, peut apporter au kit, à la toolbox des politiques économiques une contribution. Mais en revanche, on se rejoint tout à fait pour dire que ce n'est pas elle qui peut se substituer aux politiques publiques qui doivent rester prioritaires, enfin, sont les plus importantes. Sur le fait que le GSF ou le Brown Penalizing Factor ne sont pas très efficaces, alors là, moi, je suis entièrement d'accord. Je pense que ce sont des outils qui devraient être uniquement utilisés pour une approche par les risques. Or, on ne sait pas actuellement bien calculer les risques climatiques. Et donc, je pense personnellement que tant qu'on ne sait pas vraiment bien calculer cela, c'est effectivement un peu dangereux d'utiliser ces outils. Je pense, on n'a pas le temps de développer, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres voies pour d'autres pans de la réglementation pour inciter les acteurs financiers à intégrer plus activement dans leur processus de gestion des risques et de décision les critères climatiques, même si un certain nombre de choses ont déjà été faites dans ce domaine, mais il me semble qu'on pourrait aller au-delà. Oui, je t'en prie.
Non, il y a un point aussi sur lequel je pense que c'est la réglementation a commencé, mais on n'a pas encore. On ne sait pas comment ça va concrètement se dérouler. C'est ce que tu as, ce dont tu as parlé tout à l'heure, qui était les préférences ESG, la prise en compte des préférences des clients. Et là aussi, je pense qu'il va falloir. Il y a encore une incertitude. On voit un mouvement citoyen pour ses préférences en faveur du climat, une prise de conscience et donc une mobilisation, des attentes plus fortes. Et là, c'est de la même façon. Je pense que, comme tu dis, comment est-ce que c'est pris en compte dans les processus, à la fois du côté risque mais aussi d'investissement. Et du coup, il va falloir trouver un moyen d'organiser ce dialogue entre les clients et les intermédiaires financiers. Et du point de vue de la réglementation, ce qui peut être fait aussi, c'est peut-être d'organiser un petit peu les produits qui sont offerts et de réfléchir en termes de standards minimum, parce que là il y a une question assez forte de dans quelle mesure est-ce que ce qui est fait aujourd'hui et les stratégies d'investissement, est-ce qu'on observe vraiment une réallocation des des capitaux. Et donc ça, on a besoin de réfléchir aussi en termes de stratégie d'investissement, de produits, et puis aussi pour les banques, de coloration des bilans bancaires. Donc là aussi, il y a des choses à faire qui sont peut-être plus du domaine de la protection des investisseurs. Mais encore une fois aussi de la pédagogie autour de ces enjeux et puis de gagner en robustesse aussi dans les procédures de gestion des risques. Il y a aussi des choses autour de ça.
Absolument. Puis peut-être pour terminer, parce que je crois qu'on arrive au bout du temps qui nous est alloué, je crois que Julie posait la bonne question, savoir à quoi va servir la transparence. Finalement, c'est vrai que la double matérialité a été maintenant très fortement intégrée dans un certain nombre de réglementations européennes, françaises, mais via principalement des outils qui visent à améliorer le disclosure, la transparence des marchés. Donc effectivement, la question, c'est bien ça, c'est de savoir jusqu'où cette transparence va pouvoir changer le comportement. Est-ce qu'il ne faut pas trouver d'autres leviers pour intervenir. Plusieurs ont été cités sur la rémunération, la préférence des consommateurs, la responsabilité fiduciaire. Je pense que vraiment ce sont des pistes qui me paraissent devoir être creusées. Personnellement, j'espère que la nouvelle stratégie de la Commission va être l'occasion de continuer à poser ces questions.
Poser une série de questions qui proviennent de la salle. On a identifié, donc j'ai quatre groupes de questions que je vais vous poser. La première concerne, dans ces questions de régulation, est-ce qu'il y a des continents, des groupes de pays qui portent des intérêts divergents ? Ou est-ce que vous avez une unanimité, ou au contraire, on arrive à identifier assez bien des blocs de pays qui portent des points de vue différents et qui auraient d'ailleurs des raisons objectives de porter ces points de vue différents ? Ça, c'est la première question. Pour poursuivre dans cette direction, est-ce qu'il n'y a pas dans ces affaires de lutte contre le réchauffement climatique, une vraie rupture entre le monde coté et le monde non coté, où au fond le monde coté aurait basculé dans des engagements relativement clairs sous la pression des investisseurs, avec aujourd'hui un espace RSE qui s'est affirmé, alors que dans le non coté ce serait moins le cas. Et donc, pour poursuivre, n'y a-t-il pas des risques de voir des activités fortement émettrices transférées vers le non-coté, avec des financements exotiques, dirons-nous, qui permettraient de faire la même chose en dehors des radars, et donc d'échapper en quelque sorte à la réglementation. Troisième type de question concernant cette fois-ci les bulles vertes. Est-ce que vous avez des capacités à traiter ces questions? Est-ce que le concept de bulle verte a du sens pour vous? Est-ce que vous essayez de mesurer cette réalité et si c'est le cas, quels sont les dispositifs dont vous disposez pour essayer de corriger ces éléments? Et enfin, dernière question, on a parlé du carbone parce que c'est sans doute l'élément le plus facile à attraper, si j'ose dire, mais il y a d'autres facteurs comme la biodiversité. Est-ce que c'est aussi des thèmes que vous êtes en train de regarder? Je sais que oui, mais nous serions intéressés si vous pouviez nous présenter davantage vos travaux et vos développements sur ces questions. Merci.
Commencer sur quelques questions et je laisserai Julie compléter. Sur les continents, bah oui, il y a des approches très différentes. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, Julie a insisté dessus. L'Europe est très en avance sur les questions de réglementation verte. Donc c'est un domaine dans lequel à la fois la réglementation avance très vite et sa mise en œuvre également. Bon, après, c'est pas un secret pour personne. Il y a des juridictions qui sont rentrées plus tardivement, les États-Unis par exemple. Donc au-delà de l'Europe, les pays d'Asie sont aussi relativement avancés et en tout cas assez moteurs dans la lutte contre le réchauffement climatique. On peut citer la Chine par exemple ou Singapour, Hong Kong qui sont des juridictions qui sont très impliquées dans cette approche-là. Alors sur côté non côté, je laisserai Julie répondre. Le seul point que je peux dire, c'est qu'il y a un effort qui est fait d'abaisser les seuils de déclaration. Et donc ça s'étend à plus d'entreprises, même si on ne capte pas forcément les petites, mais ça ne répond pas tout à fait à l'intégralité de la question. Les bulles vertes, alors ça c'est un bon sujet. Donc nous, on essaye de le mesurer dans... Bon, par exemple, on vient de faire un exercice pilote de stress test climatique dans lequel, en fait... Alors, je ne vais pas parler de bulles vertes, mais y a, dans le risque qu'on analyse, il y a ce qu'on appelle un risque de transition, alors qui est lié au fait que le secteur financier peut se trouver exposé à des changements brutaux, donc changements de comportement des acteurs, de préférence, ou mise en œuvre de réglementation. Donc ça peut jouer dans les deux sens. Ça peut tout d'abord avoir un impact très fort sur des secteurs qui sont très exposés, parce que très émetteurs de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un premier type de bulle qui peut exploser. Et l'autre, c'est le fait de parier sur des technologies qui vont en fait ne pas se matérialiser, donc c'est typiquement la bulle verte, et donc de parier sur une transition en fait qui ne va pas se réaliser ou qui va porter sur d'autres secteurs. Donc là effectivement c'est des choses qu'on essaye de quantifier, alors avec des outils traditionnels de la finance et toutes les limites que ça peut avoir, mais en essayant de regarder justement en quoi les politiques de transition telles qu'on les mesure peuvent affecter la dynamique des prix d'actifs et puis après faire des hypothèses sur ces valorisations et regarder l'impact sur le bilan des institutions. Alors après, au-delà du carbone, il y a d'autres éléments. Bah oui, alors là encore, la réglementation européenne et française introduit des dimensions nouvelles. C'est le cas de la biodiversité. Donc c'est dans le cadre de la loi énergie-climat. Il y a tout un nouveau volet d'informations qui sont demandées aux établissements financiers qui portent sur la biodiversité, donc à la fois toujours dans cette approche de double matérialité. Alors là c'est compliqué pour les établissements financiers, c'est premièrement de mesurer l'impact des risques de biodiversité sur le bilan des institutions et ensuite la contribution ou l'impact négatif des politiques de financement ou d'assurance sur la biodiversité. Je m'arrête là pour aller.
Peut-être juste, je peux commencer par ce point-là. Je trouve qu'il y a un enjeu vraiment compliqué, effectivement. Aujourd'hui, c'est notamment dans les stratégies d'investissement durable qui sont proposées, c'est que souvent, on prend en considération pas seulement le climat, mais une palette d'autres considérations environnementales ou sociales. Et donc, ce qui touche au point que je faisais juste à l'instant sur les préférences ESG, donc environnementale, sociale et de gouvernance des investisseurs, et on voit que effectivement, il y a des stratégies vertes, des produits verts, comme en France, on a le label Greenfin, qui vraiment target des activités qui sont en faveur de la transition énergétique et écologique. Mais le gros aujourd'hui des produits d'investissement durable qui sont proposés sont autour de facteurs beaucoup plus nombreux et qui éventuellement pondèrent. Ça fait partie aussi des considérations, des choses qui interpellent l'épargnant lambda, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir agréger dans une notation pour une entreprise sa performance environnementale, sa performance sociale et sa performance en termes de gouvernance. Donc c'est vrai qu'il y a ce défi, je trouve, pour la finance durable. Lorsqu'on s'éloigne un petit peu de la problématique climat, c'est que souvent, en fait, on considère les trois, ce qui a aussi une logique, et de plus en plus, on parle pas seulement de la transition énergétique, mais de la transition juste, qui intègre déjà les enjeux sociaux liés à ça. Mais je pense que le point sur la biodiversité me fait penser à ça, parce qu'il y a aussi éventuellement des objectifs qui vont être contradictoires, c'est-à-dire qu'effectivement, vous allez pouvoir œuvrer en faveur du climat, mais ça peut avoir un effet éventuellement négatif sur la biodiversité ou éventuellement sur le social. Donc ça, c'est un sujet en termes de, pas seulement de risques, mais effectivement de stratégies positives d'investissement pour la biodiversité. On commence à voir aussi des produits d'investissement qui se développent, même si ça reste encore faible. Et encore une fois, il y a une question de préférences, dans quelle mesure est-ce que les investisseurs vont aller vers ce genre de produits. Et alors effectivement, ça pose des problématiques dont on n'a pas beaucoup parlé encore dans le panel, mais on a parlé beaucoup de transparence, mais concrètement, ça veut dire qu'en fait, pour le climat, y a beaucoup de choses autour, non seulement de la mesure de l'empreinte carbone, mais aussi effectivement des plans de transition, donc des mesures plus à moyen terme de transformation du business model. Mais pour la biodiversité, ça veut dire qu'effectivement, vous devez intégrer des mesures qui sont potentiellement différentes, et ça pose d'autres problèmes de méthodologie et d'impact. Sur les blocs de pays, je voudrais quand même, alors c'est vrai qu'il y a ce qui est vraiment très, très net, c'est qu'il y a des degrés de maturité très différents sur ces sujets dans les régions du monde, et y compris en Europe aussi, hein, on a l'impression, enfin le basculement dont j'ai parlé au début de l'industrie française financière, il est particulièrement marqué. Il y a d'autres pays où c'est très marqué, et il y a des pays où c'est quand même très balbutiant. Il y a encore peu de produits, par exemple, qui sont proposés. Mais ce qui est vraiment, je trouve, très encourageant, c'est qu'encore une fois, des concepts, la taxonomie, la double matérialité, et puis même le succès du NGFS, hein, du réseau des banques centrales, montrent bien que ces idées qui viennent d'Europe ont vraiment essaimer, et sur les enjeux de greenwashing dont j'ai parlé aussi au début, au niveau international, les régulateurs se posent de la même façon des questions autour de la dénomination des produits. Est-ce que n'importe quel produit peut se présenter vert ou ESG s'il a en fait une petite liste d'exclusion de secteur, ou bien encore une fois une intégration de ces considérations, mais sans que ça change vraiment la stratégie du produit. Après, le degré de maturité est différent, et pour revenir sur la double matérialité, effectivement, le débat, de façon un peu un peu schématique, disons, et que effectivement l'Europe a plus intégré cette double matérialité, la révision de la directive à laquelle faisait référence Laurent, qui est la directive qui sur le reporting extra-financier des entreprises, intègre aujourd'hui déjà ces enjeux de double matérialité. Donc l'entreprise doit reporter non seulement sur comment est-ce qu'elle va être impactée par l'environnement ou des changements sociétaux, mais aussi comment elle contribue à ça. Et ça, c'est des choses qui sont difficilement entendables encore au niveau international, où on envisage un standard de reporting, ce qui est aussi, encore une fois, de mon point de vue, une très bonne nouvelle, parce qu'on n'avait pas ces informations sur le climat, notamment au niveau international, mais sous un angle matérialité financière. Donc comment est-ce que ma société peut résister au changement climatique? Mais on commence à voir, encore une fois, que ces sujets, ne serait-ce qu'en réaction, sont abordés au niveau international. Sur le côté non-coté, de toute façon, c'est un vrai sujet aussi pour l'Europe en général, parce que la part des marchés financiers en Europe est moins importante que dans d'autres régions du monde. Et effectivement, que l'attrait de la cotation pour les entreprises, c'est un vrai sujet, le financement en action des entreprises, et je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le côté non coté, les PME aussi, embarquer les PME, parce qu'effectivement on entend beaucoup, et j'ai parlé des coalitions d'investisseurs, elles targetent bien sûr les plus grosses entreprises, mais si on veut aussi des solutions innovantes, des solutions en matière d'économie circulaire, y compris des technologies vertes, il va falloir aussi pouvoir accéder à des PME, et c'est du point de vue des investisseurs, c'est aussi des segments de marché sur lesquels ils doivent avoir accès. Et donc il y a un vrai enjeu que la réglementation financière pousse pour plus de transparence, pour mieux que les entreprises prennent en considération ces enjeux. Mais pour les PME, il faut que ça reste gérable, et qu'elles puissent du coup être embarquées dans ce mouvement de la finance durable, où les investisseurs vont quand même aller chercher des entreprises qui performent bien du point de vue environnemental, environnemental et social. Mais c'est vrai que cette pression des investisseurs, on en a parlé pour le charbon, par exemple, elle est réelle. Donc il y a des sociétés, notamment actives sur le charbon thermique ou sur d'autres segments d'activité, qui vont avoir du mal à se financer sur les marchés aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que, notamment parce que ça reste à court terme, si on revient à la question des horizons, à court terme, ça peut être des segments d'activité qui sont rentables, et notamment parce que la demande, en fait, enfin l'offre de financement réduit. Donc c'est pour ça aussi que quand on a regardé les engagements climat des institutions financières françaises, on a regardé aussi s'il s'agissait de désinvestissement, comment est-ce que les sites qui étaient éventuellement financés étaient fermés au niveau des entreprises aussi, lorsque les entreprises actives sur ces segments d'activité annoncent des désengagements. Est-ce que c'est effectivement vous vous désengagez au profit d'un investisseur privé qui effectivement du coup passe sous les radars et éventuellement est soumis à des contraintes, des pressions moins fortes. Donc c'est des vrais enjeux. Et ben, les bulles vertes, je crois que Laurent en a parlé. Bon, je garde quand même en tête aussi le gap de financement, c'est-à-dire qu'il y a des préoccupations sur les bulles vertes, mais il y a quand même encore on en a parlé dans la session précédente, des besoins de financement très très élevés sur les activités qui contribuent positivement à la transition énergétique. Donc, aux gérants d'être malins aussi.
Peut-être juste quelques mots rapides pour compléter tout ce qui a été dit. Sur cette question des bulles vertes, effectivement, je trouve que le dernier plan de la dernière stratégie de la Commission est intéressante de ce point de vue-là. Il y a une sorte de bascule, me semble-t-il. Le plan d'action visait vraiment à développer la finance durable, alors que la stratégie révisée, me semble-t-il, vise vraiment à favoriser le financement de la transition énergétique. Et donc je pense que le risque de créer des bulles vertes qui existaient quand on voulait à toute fin développer ou financer des actifs vertes me paraît certainement s'alléger si le focus s'élargit aussi à essayer de financer toutes les activités de transition, la décarbonation des processus industriels, etc., qui, de mon point de vue, est véritablement le cœur du problème. Je prends les questions dans le désordre. Sur le carbone, la biodiversité, je crois que Laurent et Julie ont répondu. La réglementation européenne, elle n'est pas du tout centrée sur le carbone, elle est sur la finance durable en général. Et comme Julie semblait en tout cas poser la question, le fait d'englober le changement climatique, mais aussi d'autres dimensions, évidemment un impact positif évident, mais aussi pose des difficultés particulières avec des problèmes d'arbitrage, d'équilibre, de maturité différente des dispositifs de mesure des risques ou de l'impact, etc. Et donc, je pense que le prisme de la finance durable est indispensable. Il ne faut pas prendre des mesures dans un domaine comme le climat, par exemple, sans regarder les impacts négatifs qu'on peut avoir ailleurs en termes sociaux, en termes de biodiversité, etc. Mais il faut quand même garder un focus important sur certains aspects pour que quand même la réglementation continue d'être pertinente et morte en quelque sorte. Mais ça, c'est vraiment une question très, très, très compliquée. Sur la rupture côté-non côté, moi, je serais un tout petit peu moins optimiste que la personne qui a posé la question. Je ne suis pas complètement sûr que le côté a basculé. Il y a quand même beaucoup d'interrogations sur la finance verte, sur la finance durable, sur ce qu'elle apporte, sur son impact réel, etc. Donc beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de produits, beaucoup d'innovations, etc. Quel est l'impact vraiment de tout cela sur le changement, la transformation de l'économie? Je ne réponds pas, mais la question est posée. Et à côté, si je puis dire, du côté du non-côté, il y a aussi des fonds d'investissement en termes d'infrastructures, etc., des fonds à impact qui font des choses très intéressantes, etc. Donc la rupture n'est peut-être pas aussi nette, me semble-t-il, que
obligations de transparence s'imposeront à la fois au côté et au non-côté. Donc ça aussi, parce qu'effectivement, l'impact d'une société ne dépend pas de... Ça c'est aussi une originalité française, enfin une originalité...
Une singularité
européenne par rapport à des choses qui sont plus...
Et puis juste, non, monsieur, ce dernier point sur le problème des pays, effectivement, les pays ont des degrés de maturité différents, etc. Moi, je reste frappé quand même en matière de réglementation financière par des traditions différentes entre les pays du Nord et les pays du Sud. Ce n'est pas lié au climat, d'ailleurs, c'est lié vraiment à l'utilisation de la réglementation financière et de la politique monétaire. Dans les pays du Sud, il y a une tradition d'utiliser ces instruments-là dans la politique de développement, la politique économique. Ce qu'on faisait dans les pays du Nord dans une période passée et qu'on a arrêté de faire dans les années 70. Donc là, il y a une sorte de changement différent. Donc c'est pas une opposition d'intérêt. Hein. C'est la question, est-ce qu'il y a une opposition d'intérêt ? Non, je pense qu'il y a vraiment presque une opposition de philosophie sur l'utilisation de ces outils-là, sur quel est le meilleur moyen d'avoir l'efficacité de ces outils-là. Et là, il y a vraiment des approches assez différentes, mais qui dépassent, me semble-t-il, le problème du changement climatique.
Va se terminer, il est 18h15, donc cette table ronde a été, comme les deux autres, extrêmement instructive pour les gens qui nous ont suivis en ligne. Merci à tous nos intervenants, je crois qu'on a répondu à toutes les questions qu'on s'était posées et il était important pour nous de traiter encore une fois les questions de régulation dans cette conférence. Merci à nos intervenants d'être venus à l'École des Ponts et merci à tous ceux qui ont participé encore une fois à la conférence d'aujourd'hui. À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.